Bienvenue à tous dans cette édition d'À propos. Comme vous l'avez vu la semaine dernière avec M. Taylor, il se passe beaucoup de choses ici au bureau et j'ai plusieurs informations à vous communiquer en premier lieu. Je commencerai donc par une mise à jour concernant la situation de M. Jim Franks après son opération du 1er juillet. Tout se déroule comme prévu et il a quitté l'hôpital pour rentrer chez lui le dimanche 6 juillet. Il se rétablit bien et suit les instructions du médecin pour sa convalescence et il est reconnaissant d'être de retour chez lui. Jim et Sharon sont reconnaissants de l'aide de Dieu ainsi que de vos prières et de votre soutien. Ils prévoient d'écrire une lettre aux membres dans la semaine à venir afin de vous informer personnellement sur les détails de ce qu'il a traversé. Sur le plan des déplacements, M. Joël Micker effectue actuellement un voyage en Afrique, principalement dans le but de trouver un site pour la fête en Ouganda où les membres du Rwanda et d'autres pays voisins pourront célébrer la fête cette année. Je pense que vous êtes bien informés concernant les difficultés que rencontrent nos frères et sœurs du Rwanda en raison des réglementations locales de plus en plus strictes imposées à de nombreuses églises, y compris la nôtre. Il semble qu'il y ait une piste prometteuse pour un site potentiel de la fête, mais chacun apprécierait certainement vos prières afin qu'un bon emplacement puisse être confirmé et bien sûr, pour qu'il trouve grâce auprès du gouvernement afin que les membres rwandais puissent reprendre leurs réunions. Veuillez aussi garder leur pasteur, M. Mundeli, dans vos prières, car il fait face à de très graves problèmes de santé. M. et Mme Orchak sont également en voyage en Afrique pour rendre visite aux membres en Zambie, au Zimbabwe, au Malawi et en Afrique du Sud. Nous avons hâte d'entendre son compte-rendu de voyage dans une prochaine édition d'À propos. Je ferai un court voyage à Mexico le vendredi 11 juillet pour la prochaine session du Programme international de leadership et je reviendrai dimanche, juste à temps pour la première session du programme de formation continue de l'Institut du Fondement, qui débutera lundi. Un autre point d'actualité. À la suite du décès de M. Dick Thompson il y a quelques semaines, il a été nécessaire de pourvoir au remplacement de son poste au sein du Conseil. Nous avons suivi la procédure définie dans nos documents de gouvernance et j'ai le plaisir de vous annoncer que M. Mike Anisco, notre pasteur à Billot, dans le Wisconsin, a été choisi pour prendre la place de M. Thompson. Je souhaite à présent aborder un sujet bien plus sérieux, et c'est un sujet avec lequel j'ai vraiment eu du mal concernant cet épisode à propos, et je vais vous expliquer cela dans un instant. Mais tout d'abord, abordons une situation qui nous touche de très près. Si vous vivez en dehors des États-Unis, comme vous le savez peut-être ou non, le 4 juillet, jour de l'indépendance, est l'une des plus grandes fêtes célébrées de l'année. Cette année, cependant, a été assombrie par la perte tragique de vies humaines à cause des crues soudaines qui ont balayé certaines parties du centre-sud du Texas. Nous avons reçu des nouvelles de nos pasteurs dans la région et aucun de nos membres n'a été touché physiquement, bien que les assemblées du sabbat à San Antonio aient été annulées la semaine dernière. Cependant, cela a certainement affecté émotionnellement des personnes partout ailleurs. Il était très pénible de voir les rapports ainsi que les photos et vidéos affluer continuellement ces derniers jours et de constater l'augmentation du nombre de victimes. Mardi matin, le nombre de victimes dépassait la centaine, avec des dizaines de personnes toujours portées disparues. D'après ce que j'ai lu, il s'agit du deuxième plus grand nombre de victimes lors d'une inondation aux États-Unis au cours des 50 dernières années, juste derrière les 1400 morts de l'ouragan Katrina en 2005. Il était presque inimaginable d'entendre les rapports indiquant que la rivière Guadalupe était montée de 8 mètres en seulement 45 minutes et de voir les vidéos de la dévastation. La Guadalupe est une belle rivière avec de nombreux emplacements de camping, des centres de villégiature et des colonies de vacances, dont la plupart étaient pleinement utilisées. Et de nombreuses personnes près du bord de la rivière n'ont pas eu la moindre chance tôt ce matin-là, lorsque les eaux sont montées à toute allure. Ce qui touche encore plus beaucoup d'entre nous, c'est que le comté de Kerr et la ville de Kerrville sont des lieux où nous avons célébré plusieurs fois la fête des tabernacles ces dernières années, dans un établissement situé directement au bord de la rivière. Et toute personne qui s'y est rendue reconnaîtrait des scènes de la ville dans les reportages télévisés. Mais ce qu'il y a d'encore plus tragique, c'est le fait que 27 des victimes étaient des enfants et des moniteurs d'une colonie de vacances. Nous nous identifions profondément à cette tragédie, en pensant à nos campeurs et à notre programme de camp. Je pense que très peu d'entre nous peuvent réellement imaginer ce que cela représenterait d'avoir à affronter une telle situation. Ainsi, cet événement nous a touchés au sens propre, à seulement quelques heures d'ici, et au sens figuré, car nous nous identifions facilement aux victimes. J'avais initialement prévu de vous informer de certains développements dans les médias. Mais pour être honnête, ces inondations ont vraiment occupé mon esprit ces derniers jours. C'est pourquoi j'ai décidé de reporter les nouvelles des médias lors de ma prochaine édition d'À propos dans quelques semaines. Cependant, j'ai eu du mal à trouver les mots, car tant de choses traversent l'esprit dans de telles circonstances. Mais lundi matin, j'ai lu quelque chose qui m'a amené à me concentrer et à cibler une question très précise, une question qu'il est important pour nous de considérer et qui peut avoir une grande valeur spirituelle pour nous tous, ainsi qu'un principe vraiment très important. J'ai lu un article à propos d'une famille dont le mode de vie et la richesse pourraient être enviés par beaucoup. Clark Hunt est le propriétaire de l'équipe de football américain de Kansas City. C'est un homme très prospère, mais il n'est qu'un membre de la grande famille, Hunt, l'une des plus riches des États-Unis, avec une fortune estimée à plus de 24 milliards de dollars. Mais la famille Hunt est aussi en deuil, car l'un des enfants, une petite fille âgée de 9 ans, nommée Janie, faisait partie des 27 campeurs du camp, mystiques, qui ont péri dans l'inondation. J'ai mentionné Clark Hunt parce que Janie était sa cousine. Et sa femme, Tavia, a publié un message sur Instagram que j'ai trouvé particulièrement pertinent, car elle exprime sans doute ce que beaucoup de personnes ressentent et ce avec quoi elles luttent. Elle a écrit ceci. Comment pouvons-nous faire confiance à un Dieu qui est censé être bon, omniscient et tout-puissant, mais qui permet que des choses aussi terribles puissent arriver, même à des enfants? Maintenant, si l'on ne lit que cette phrase, on pourrait penser qu'elle est amère. Et c'est effectivement là que beaucoup de personnes amères ou désabusées mettent fin à la conversation. Mais ce n'est qu'une partie de ce qu'elle a écrit. Elle a poursuivi en disant « C'est une question sacrée et délicate, et la Bible ne l'élude pas. L'Écriture sainte est remplie des nombreux cris de ceux dont le cœur a été brisé, mais qui continuent de lutter pour faire confiance au même Dieu qui permet cette souffrance. » On ne perçoit pas d'amertume dans sa déclaration complète, mais il est clair que l'on ressent un questionnement et une recherche de réponse à certaines des questions les plus difficiles de la vie. Et elle a raison en disant que la question « Pourquoi Dieu permet-il le mal et la souffrance ?» existe probablement depuis presque aussi longtemps que l'humanité elle-même. On en lit assurément des exemples dans la Bible. Nous avons d'ailleurs une brochure, des articles, ainsi qu'un épisode récent de « Vie, espoir et vérité présente » sur ce sujet. Mais c'est néanmoins une question à laquelle beaucoup de personnes, et parfois nous-mêmes, devons tenter de répondre lorsque de telles tragédies nous touchent de très près. Vous savez, chaque personne doit affronter de telles questions tôt ou tard dans sa vie, et souvent à plusieurs reprises, car la perte, sous différentes formes, fait partie de la vie. Bien sûr, il existe différents degrés de perte, et il est évident que celle-ci fait partie des plus profondes. Nous pouvons perdre notre richesse, notre santé, nous pouvons perdre des relations, mais la perte d'être cher est l'une des plus difficiles, surtout lorsqu'elle survient de manière prématurée et non naturelle, à une telle échelle, et lorsqu'elle touche aussi profondément notre cœur. Ces moments-là font surgir en nous beaucoup de questions difficiles. Mon objectif ici n'est pas d'anticiper et de tenter de répondre à toutes ces questions, car cela nécessiterait probablement plusieurs sermons. Mais je souhaite attirer notre attention sur un principe spirituel fondamental concernant la nature même du questionnement, à savoir la nécessité de comprendre la différence entre questionner et douter. Permettez-moi d'abord de poser la question suivante. Est-il mal de questionner Dieu? Eh bien, la réponse courte est non. Beaucoup de personnalités bibliques ont interrogé Dieu. Vous pensez peut-être à Job ou à David. Parfois, les réponses viennent très rapidement. D'autres fois, nous cherchons pendant un bon moment. Le problème ou le danger survient lorsque les questions se transforment en doutes ou naissent du doute. Douter est une erreur. Douter est dangereux. Le doute nous entraîne sur une mauvaise voie de réflexion. Mais il est naturel de questionner. En réalité, le questionnement fait partie de notre relation avec Dieu. Le fait de lui poser des questions alors que nous recherchons la connaissance et la compréhension. Et parfois, la question est « Pourquoi ?» Or, la Bible répond précisément à cela. Elle l'aborde en profondeur. Et elle nous aide véritablement à faire la distinction claire entre ce qui est saint et ce qui ne l'est pas. Et cette distinction essentielle réside entre les questions et les doutes. Un questionnement spirituellement saint provient d'un cœur animé par la foi. Il cherche une compréhension plus profonde, ou peut-être d'un cœur qui souffre et qui tend la main vers Dieu. Ce n'est pas issu d'un cœur d'incrédulité. C'est un cœur qui cherche à traiter ou à comprendre quelque chose, à saisir quelque chose de plus profond que ce que nous pouvons voir. Cela nous rapproche finalement de Dieu lorsque ce questionnement est spirituellement saint. En revanche, un questionnement spirituellement malsain provient d'un cœur rempli de doutes où il y a un manque fondamental de confiance en Dieu, en ses promesses, en sa sollicitude, en son caractère, et cela se manifeste par l'hésitation, la suspicion et le scepticisme. Et si cela continue de se développer, cela conduit finalement au rejet. Voici quelques exemples. Lorsque l'ange Gabriel annonça à Marie qu'elle aurait un enfant et deviendrait la mère de Jésus, elle posa une question. Elle dit « Comment cela se peut-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Mais il est évident qu'elle croyait à ce qui allait arriver, même si elle ne comprenait pas comment cela se produirait. Ainsi, elle questionnait et cherchait à comprendre quelque chose qui, humainement, n'a aucun sens. Alors, l'ange le lui expliqua. En revanche, dans Luc, chapitre 1, il nous est en effet dit, de façon explicite, que lorsque le même ange apparut à Zacharie, pour lui annoncer que sa femme Élisabeth allait avoir un enfant, il répondit alors « À quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Et l'ange lui répondit et dit « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Il avait une question similaire, mais la sienne venait d'un cœur plein de doutes, contrairement à celle de Marie. David, dans les moments d'épreuve, interrogeait Dieu. Par exemple, dans le psaume 13, il s'est écrié « Jusqu'à quand, Éternel ? M'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» Vous pouvez lire plusieurs autres psaumes qu'il a écrits, mais ces questions n'étaient jamais posées dans une perspective de foi faible ou de rébellion. Il s'agissait simplement d'émotions honnêtes et brutes qu'il partageait de manière très intime avec le Dieu en qui il avait confiance. Jésus, en fait, a repris la question de David « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Des émotions sincères, mais sans douter de Dieu ni de l'amour de Dieu. Mais les Israélites questionnaient continuellement Dieu, à partir d'une position de doute et de méfiance, ce qui a conduit Dieu à dire dans Nombre 14, verset 11, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Et ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ?» Leurs questions, issues du doute et de la méfiance, les conduisaient toujours à se rebeller contre Dieu. Or, David, après avoir posé ses questions au début du psaume 13, a déclaré quelques versets plus loin, « Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. » Il avait effectivement une base de confiance et la confiance est très étroitement liée à la foi. C'est un élément de la foi. Le questionnement qui cherche des réponses repose sur la confiance. Cela nous permet de dire, « Vous savez, je ne comprends pas. J'aimerais avoir des réponses à mes questions, mais j'ai confiance qu'il y a des réponses, que Dieu a des réponses. » J'ai confiance qu'il a une manière de voir et une compréhension des choses, même si je ne les comprends pas encore. Pas encore. Je comprendrai un jour. Ce sera peut-être dans cette vie ou dans la suivante, mais je ne doute pas que Dieu a des réponses. C'est la base juste et saine pour poser des questions. Ceci est très important, car les événements qui engendrent la souffrance et le mal suscitent toujours des questions. Et parfois, ce sont des questions difficiles, c'est naturel. Mais gardez simplement à l'esprit la distinction entre questionner et douter, et protégez votre esprit. Satan veut entraîner chaque personne sur le chemin du doute. C'est l'une de ses tactiques qui remonte au Jardin d'Éden. Implanter le doute à propos de Dieu. Le doute mène à l'incrédulité. L'incrédulité se transforme en éloignement, et l'éloignement conduit à la destruction de notre relation avec Dieu. Eh bien, aujourd'hui, vous avez eu une petite prédication au lieu d'un reportage, mais j'espère que vous garderez ce principe utile à l'esprit et que cela vous donnera matière à réflexion. Alors que nous prions pour ceux qui souffrent et que vous faites concrètement ce qui est en votre pouvoir pour aider de toutes les manières possibles, utilisons ces événements pour nous préparer mentalement et spirituellement au moment où nous devrons faire face à nos propres pertes dans la vie et où nous nous retrouverons à poser des questions à Dieu. Sur un autre sujet, veuillez noter qu'en raison de certains changements liés à la planification, nous allons faire une pause et il n'y aura pas d'émission à propos semaine prochaine. Mais nous reprendrons notre programmation habituelle le 24 juillet, lorsque M. Dave Myers sera l'animateur. Sur ce, nous allons conclure l'édition de cette semaine. Je vous souhaite à tous un sabbat très reposant, réfléchi et spirituellement enrichissant.